terminé, il va être disponible pour être prêté. C'est costaud. Quand je vous avertis, ce que j'ai apporté dans le cours, c'est à peu près un quart de ce que vous auriez dans le livre. Tu te l'es-tu procuré, Samuel? Non. Si, c'est ça. Ce qu'on a vu dans le cours, c'est à peu près un quart de ce que vous auriez dans le livre. Et il n'est pas facile à synthétiser, mais c'est une excellente théologie biblique de l'adoration. Excellente. Et puis, dans deux semaines, on va voir, tout probablement, là, on est en train de confirmer des détails, trois cours seulement. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on termine avec l'Apocalypse. Les autres classes vont avoir terminé aussi. Et dans deux semaines, on commencerait trois cours. Je vais les annoncer tout à l'heure, mais moi, je vais faire un cours pratique sur des questions pratiques sur l'Esprit-Saint. Du genre, est-ce qu'on peut attrister l'Esprit-Saint? Comment est-ce qu'on peut l'attrister? Est-ce qu'on peut l'éteindre? Est-ce qu'on peut prier en s'adressant à l'Esprit-Saint? Comment on fait pour être rempli de l'Esprit? Donc, c'est des questions très pratiques qu'on entend souvent. Alexandre va voir pendant cette semaine des disciplines spirituelles et le cours pour les nouveaux croyants. On va aller ensemble dans un mot de prière. Seigneur Jésus, je suis reconnaissant pour ton amour pour moi, pour la grâce que tu me fais, Seigneur, d'habiter en moi par ton esprit, de me parler, Seigneur, par ta parole, de me parler à travers des frères et sœurs, de faire grandir ma passion pour toi, ma compréhension, mon appréciation, Seigneur, de ce que tu as accompli à la croix pour mon âme. Seigneur Jésus, je suis reconnaissant de ce que ton esprit me parle, me bouleverse. Je suis reconnaissant, Seigneur, de ce que tu façonnes en moi le caractère d'un homme de Dieu. Et je vois, Seigneur, que c'est ton œuvre dans ma vie. Je suis reconnaissant, Seigneur, de ce que je grandis dans ma paix et dans ma foi. Apprendre, Seigneur, à m'asseoir à tes pieds pour te rendre hommage, pour t'écouter, m'instruire, plutôt que de m'inquiéter, me faire du souci pour toutes ces choses que je ne contrôle pas, Seigneur. Viens, Seigneur, à travers ces deux derniers dimanches, nous aider à saisir davantage ce que tu attends de nous comme adorateurs. Viens nous faire grandir, Seigneur, dans notre émerveillement devant toi. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, on est dans la lettre aux Hébreux. Et j'aimerais avoir deux personnes qui me disent, selon vous, comment la lettre aux Hébreux nous enseigne sur l'adoration. Juste pour vous mettre un petit peu de pression, selon moi, c'est le livre du Nouveau Testament le plus clair sur l'adoration. Alors, comment la lettre aux Hébreux nous enseigne sur l'adoration? Sylvain, l'Alliance, par rapport à... Explique-moi un petit peu ce que tu veux dire. Explique la nouvelle Alliance avec Christ, puis le lien direct avec l'adoration, tu veux-tu expliquer? OK. Alors, la première alliance a été un échec dans un sens, même si c'était dans le plan de Dieu. Puis Christ arrive avec cette nouvelle alliance-là, puis lui-même l'a accomplie. Alors, on est dans le langage de l'adoration. On a vu ensemble, lorsqu'on a commencé le cours sur l'adoration, que dans l'Ancien Testament, l'adoration, c'est entrer en relation avec Dieu, c'est rendre hommage à Dieu. Et on a vu que ce qui était au cœur de l'adoration, comment est-ce que le peuple d'Israël était appelé à plaire à Dieu? C'était en entrant dans une alliance avec son Dieu. Et dans cette alliance-là, il apprendrait comment est-ce qu'il doit se comporter, comment est-ce qu'il doit honorer Dieu. Donc, l'alliance, c'est au cœur du thème de l'adoration. C'est vraiment au cœur du sujet de l'adoration. Excellent. Une autre personne, comment est-ce que la lettre aux Hébreux nous aide à comprendre l'adoration, nous instruit sur l'adoration? Disons que Sylvain a touché un morceau fondamental, là, mais il y a plein d'autres éléments.
La notion du temple et du sacrificateur, c'est ce qui était dans
Je vais juste résumer ça. Donc, dans l'Ancien Testament, le temple, le sacrificateur, était au centre du culte, de l'adoration. Dans la lettre aux Hébreux, on voit ce que Christ vient accomplir.
Oui, exactement. Donc, tu sais, quand Dieu a dit à Moïse de faire un temple, comme le modèle qu'il nous montrerait, donc c'est que le vrai temple était au ciel, et ce qui était sur la terre, c'était une représentation visuelle, physique, mais le vrai temple était au ciel, et Jésus-Christ vient faire le culte, le vrai culte au ciel.
OK, donc Moïse, il lui avait été donné des instructions sur la base d'un modèle de ce qui était au ciel. Christ est venu l'accomplir dans le vrai temple. Celui de l'Ancien Testament serait une préfiguration, une image du temple où Christ allait offrir le sacrifice parfait. En gros, c'est ça? OK, excellent. Donc, vous voyez, on est dans l'adoration. Maintenant, on n'est pas concrètement dans le pratico-pratique, comment est-ce que moi je vais être un adorateur. Mais la lettre aux Hébreux adresse ça en déposant ces fondements-là. D'accord? La lettre aux Hébreux est le livre du Nouveau Testament le plus complet sur le sujet de l'adoration. Cette lettre reprend tous les grands thèmes de l'adoration que l'on retrouve dans l'Ancien Testament et les associe à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. Faites le tour de tous les grands thèmes dans l'Ancien Testament. Lorsque Israël s'est approché de la montagne, on le retrouve dans la lettre aux Hébreux, c'est associé à Christ, le sanctuaire, le sacrifice, les souverains sacrificateurs. Entrer dans le service de Dieu, on a dit que dans l'Ancien Testament, adorer Dieu, c'est servir Dieu. Servir Dieu non seulement dans le sanctuaire, dans le temple, mais servir Dieu dans le peuple, dans les relations à l'intérieur du peuple de Dieu. Même dans les relations du peuple de Dieu avec les gens de l'extérieur, c'est servir Dieu, c'est adorer Dieu dans l'Ancien Testament. Toute la notion du service est très présente dans la lettre aux Hébreux. Donc, dans la lettre aux Hébreux, c'est comme si on a le résumé parfait pour reprendre tous les grands thèmes de l'Ancien Testament sur l'adoration, puis les appliquer à l'œuvre de Christ, puis voir ensuite en quoi ça s'applique à nous. Où est-ce que nous, on se situe dans ça? En passant, si vous n'avez pas pris les notes sur les deux côtés, il y avait des notes pour ce matin. Par son œuvre, Jésus-Christ accomplit et remplace tout le modèle d'accès à Dieu de l'Ancien Testament. D'accord? Il l'accomplit et il remplace, l'Ancien étant une préfiguration. Alors, vous pouvez tourner dans vos Bibles ou si vous avez les notes, j'ai mis la majorité des passages dans vos notes. Hébreux 1:1-3. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Est-ce que vous vous rappelez, lorsqu'on a commencé à étudier le sujet de l'adoration, le premier élément, c'était la révélation. Nous avons vu ensemble que c'est Dieu qui prend l'initiative de venir se révéler à nous. Dans l'Ancien Testament, on voit qu'un des thèmes majeurs, c'est qu'on ne pourra jamais être des adorateurs de Dieu si Dieu ne prend pas l'initiative pour venir se révéler à nous. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ça va? Donc, c'est Dieu qui s'est révélé à son peuple. C'est Dieu qui s'est révélé à Israël à travers la loi. C'est Dieu qui s'est révélé, qui a pris l'initiative. Bien, on voit ce thème-là apparaître tout de suite au début de la lettre d'Hébreux. Après, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Évidemment, on a un autre des thèmes majeur de l'Ancien Testament, la purification des péchés. On avait dit que ce peuple-là, même si Dieu se révélait, était indigne d'entrer dans cette alliance. Il avait besoin d'être racheté, d'être purifié. On voit ce thème-là qui revient ici. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors, toute la question de l'accès à Dieu, de la révélation de Dieu, de la purification est abordée au début de la lettre. Et dans le fond, ce qu'on va voir, on va voir que Christ nous permet de devenir des adorateurs comme ça n'a jamais été le cas avant. Et on voit que Christ est aussi le modèle lui-même du parfait adorateur. D'accord? Les deux éléments sont là assez tôt dans la lettre. Il devient le médiateur de la nouvelle alliance. La lettre aux Hébreux nous présente Jésus-Christ comme le médiateur d'une nouvelle alliance. Hébreux 7 en gros. Une alliance par excellence célébrée dans un sanctuaire céleste. Alors, on l'a déjà mentionné tantôt, 8 à 10. Puisqu'il est question d'une nouvelle alliance, la lettre nous présente aussi les conditions et termes de cette nouvelle alliance afin de s'approcher de Dieu. Alors, je vais répéter quelque chose, parce que vos yeux, tantôt, me disaient que vous ne vous en rappeliez pas. Là. Au début, dans l'Ancien Testament, ce qu'on a vu ensemble, c'est que Dieu s'est révélé à un peuple qui ne le connaissait pas et qui ne pouvait pas le connaître véritablement sans que Dieu prenne l'initiative. D'accord? Dieu a racheté ce peuple-là. Ils étaient non seulement incapables de le connaître, mais indignes de devenir des adorateurs. Il a fallu qu'il les rachète. Et cette relation d'adorateur, d'adoré, se définissait par l'alliance que Dieu contractait avec son peuple. Dans cette alliance, Dieu disait, « Voici le Dieu que je vais être pour toi. » Et voici ce que toi, tu vas être pour moi. Quelle sorte de sujet tu vas être dans mon royaume. Et donc, en disant, voici ce que j'attends de vous, il est en train de dire, voici comment vous allez me plaire. Voici comment vous allez être des adorateurs. Lorsqu'on lit l'alliance entre Dieu et Israël, nous voyons ce que Dieu attend des adorateurs qui lui plaisent. Et là, ça devient beaucoup plus vaste. Ça, je sais que je l'ai répété souvent, mais beaucoup plus vaste que venir ici et chanter des cantiques. D'accord? Ça devient, chanter des cantiques, c'est une infime portion de notre adoration. C'est dire des louanges, c'est proclamer. On l'a vu, c'est important, mais c'est infime comme partie de l'adoration. Donc, dans l'Ancien Testament, l'alliance est au cœur de l'adoration. Je sais que je plais à Dieu si j'honore l'alliance. J'ai fait une alliance. C'est la même chose dans ma relation avec mon épouse. Esther et moi, on a contracté une alliance ensemble, à la vie et à la mort. Lorsque nous nous sommes mariés, j'ai dit, je vais t'aimer, je vais te servir, je vais prendre soin de toi, et quoi qu'il advienne, je vais être fidèle. Si j'honore mes vœux, Esther va être heureuse de mon rôle à moi. D'accord? Et elle doit honorer sa partie. C'est la même chose entre Dieu et Israël. Si Christ arrive et instaure une nouvelle alliance, bien, on apprend des nouveaux termes, nouvelles conditions pour être des adorateurs. Est-ce que vous me suivez? On apprend maintenant des nouveaux termes, nouvelles conditions pour être des adorateurs. Dans quoi je m'embarque si j'entre dans cette alliance-là? Ce matin, on va être dans Matthieu 26. Je vais parler plus de l'alliance la semaine prochaine. Mais c'est ça que Jésus-Christ est venu nous offrir. Il est venu nous offrir d'entrer dans un partenariat avec Dieu, dans une alliance avec Dieu, dans une relation avec Dieu. Si on est dans une nouvelle alliance, c'est quoi les termes de la nouvelle alliance? Où est-ce que je vais me tourner dans le Nouveau Testament pour savoir c'est quoi les termes de la nouvelle alliance? Je répète ma question. Oui, c'est une question. Où est-ce que je vais me tourner? Je m'excuse, c'était pas rhétorique. Où est-ce que je vais me tourner dans le Nouveau Testament pour apprendre c'est quoi les termes de la Nouvelle Alliance? Quand je dis ça, là, les termes de la Nouvelle Alliance, de quoi je parle? Savez-vous de quoi je parle? Sermon sur la montagne. Pourquoi le sermon sur la montagne? Alors, si vous voulez savoir c'est quoi les termes de la Nouvelle Alliance, vous allez lire le Sermon sur la montagne, vous allez lire les Évangiles, puis vous les avez de la bouche de Jésus dans ses principes les plus purs. Des fois, c'est tellement pur que tu dis c'est impossible. C'est impossible. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez vos ennemis, puis là, tu dis ça n'a pas de bon sens. C'est ça les termes de la Nouvelle Alliance. D'accord? Puis ensuite, lorsque je vais lire le reste du Nouveau Testament, ces principes-là sont appliqués. Je m'en vais voir comment ça se traduit dans la vie de l'Église. Lorsque Jésus, hier, j'avais une discussion avec Esther sur la discipline ecclésiastique. Puis quand on était à Together for the Gospel, il y a une question qui a été posée à John MacArthur, parce que l'Église de John MacArthur sont peut-être 7 000-8 000, d'accord? Et une question qui était posée, c'est encourageant pour vous, vous êtes dans une église de 7-8 000 personnes. Quand vous êtes arrivé, vous étiez comme 300, voilà 30 ans. Et là, vous êtes 7-8 000. Comment vous pourriez encourager un pasteur d'une petite église de 200-300 personnes? Et puis, puis là, John MacArthur, il a dit, premièrement, ça fait longtemps que notre croissance est ralentie. Mais deuxièmement, vous devez réaliser que les trois problèmes de couple que vous avez dans une église de 300 personnes sont multipliés par 20 dans notre église à nous. Alors, toutes les semaines, on entend parler de drames, on est en train d'entreprendre des cas de discipline ecclésiastique, on est en train d'aller reprendre des gens, on est en train de pleurer avec des épouses qui sont quittées par leur mari, tout ça. Puis là, quand je partageais ça à Esther, elle m'a dit, mais là, elle dit, quand il y a autant de drames, puis autant de misères, puis autant de malheurs dans une église, qu'est-ce que ça veut dire lorsque Jésus a dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres, qu'ils sauront que vous êtes mes disciples. S'il y a autant de misère, comment ils vont faire pour voir l'amour de Christ au milieu de l'Église? C'est intéressant, c'est une bonne question d'Esther. C'est une question naïve, c'est une bonne question. C'est une question pratique. Ils vont le voir lorsqu'on va faire la discipline ecclésiastique. Parce que la réalité, c'est que l'amour de Dieu se manifeste à travers ses châtiments, ses réprimandes, ses corrections, ses écoutes, lorsqu'on accompagne les gens. Alors, les gens de l'extérieur qui vont venir, qui vont savoir qu'il y a un couple qui est en difficulté, que l'Église est en train de l'accompagner pour essayer de les aider, puis les aider à ne pas se séparer, puis à bâtir ensemble, puis surmonter ça, puis ils vont se repentir, ils vont pleurer, puis on va construire ensemble. Ils vont voir l'amour qui est au milieu de nous. D'accord? Ils vont voir l'amour en action. Le lien avec mon cours sur l'adoration, là. C'est quoi les termes de l'Alliance? Vous les avez dans les paroles de Jésus, dans ses principes les plus purs. D'accord? Des fois, c'est « aimez vos ennemis ». Ouais, c'est pas évident de faire le lien entre « aimez vos ennemis », « faites du bien à ceux qui vous maudissent », puis « ma relation de couple qui va mal ». Paul va la faire plus loin, il va le faire plus loin, ce lien-là. Il va faire ces relations-là. Christ a aimé ses ennemis sur la croix. Quand j'arrive dans Éphésiens 5, il dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Fait un lien entre ce que Christ a fait, puis là, la relation de couple, les relations de couple. Donc, si je veux savoir comment, c'est quoi les termes de l'Alliance, je vais lire les Évangiles. J'ai Jésus avec des principes, des fois, qui ont de l'air tellement gros. Puis là, je lis tout le reste du Nouveau Testament, puis je vois comment les apôtres l'ont appliqué dans l'Église. Comment qu'est-ce que c'est devenu concrètement? Mais c'est devenu concrètement une récolte d'offrandes qui est partie pour Jérusalem parce qu'il y avait beaucoup de chrétiens pauvres à Jérusalem. C'est devenu concrètement Paul qui va annoncer l'Évangile puis qui se fait battre. C'est devenu concrètement une église à Corinthe qui ne va pas tellement bien, puis là, Paul va la reprendre, puis là, il se repent, puis là, Paul peut revenir. Puis dans tout ça, on est en train de voir le royaume, les principes du royaume qui sont vécus. Est-ce que c'est clair? Non? Posez-moi une ou deux questions, juste pour m'aider à clarifier avec vous. Pas clair, hein? Si je veux savoir qu'est-ce que c'est un adorateur, c'est quelqu'un qui va honorer l'Alliance. On entre dans une nouvelle Alliance. Cette nouvelle Alliance-là nous est expliquée à travers tout le Nouveau Testament pour savoir comment honorer Dieu. Comment est-ce qu'on va honorer Dieu dans ces termes? Et lorsque vous êtes en train de lire le Nouveau Testament, puis que vous avez une exhortation qui vous est donnée dans le Nouveau Testament, c'est une exhortation à honorer l'alliance dans laquelle vous êtes entré avec Dieu. Est-ce que ça, c'est plus clair? Quand vous lisez le Nouveau Testament, ce matin, j'étais en train de... Ben, en fait, j'ai lu la lettre aux Hébreux, mais avant, j'étais en train de terminer Philémon. D'accord? Fait que Paul dit à Philémon, est-ce que vous connaissez l'histoire de Philémon? Onésime s'est sauvé, c'est un esclave. Philémon avait un esclave qui s'appelait Onésime. Il s'est sauvé probablement, ce qui a causé du tort économique à Philémon. Puis Onésime s'est probablement converti par la suite. Et là, il était sous le ministère de Paul ailleurs, mais là, Paul, en parlant avec, il dit, « Oh, t'es un peu, toi, t'es un esclave en fuite, mon copain. Oh, attends un petit peu, là. T'es un esclave en fuite. Mais là, c'est illégal, ce que t'as fait. Fait que tu vas retourner auprès de Philémon, puis tu vas aller lui demander de te libérer. » Quand Paul est en train de faire ça, là, il est en train d'honorer la nouvelle alliance. Puis quand Paul écrit à Philémon, puis il dit à Philémon, « Philémon, voici, tu avais un esclave, il s'est sauvé, c'était un employé. » Dans ce temps-là, là, c'était un employé en quelque sorte. Tu avais un employé qui s'est sauvé, il s'est poussé avec ton fric. Tu as perdu de l'argent parce qu'il est parti. Je vais le renvoyer auprès de toi et je m'attends de ta part que tu ne te comportes pas comme un païen. Je m'attends au contraire que tu vois la souveraineté de Dieu dans le fait qu'il s'est sauvé, il m'a rencontré, il s'est converti. Puis maintenant, il n'est pas juste utile à rentrer de l'argent dans ta maison. il est utile à faire avancer l'œuvre du royaume. Et si Philémon fait le pas de foi de dire « Je te pardonne, j'oublie l'argent que j'ai perdu et je me réjouis de ce que tu fais profiter le royaume de Dieu. » Bien, à ce moment-là, ce que Philémon est en train de vivre, c'est lorsque Jésus dit « Ne vous attachez pas aux choses de ce monde, mais attachez-vous aux choses d'en haut. » Voyez-vous, il est en train de renoncer à son argent, il est en train de renoncer à sa vengeance, il est en train d'honorer la nouvelle alliance dans laquelle il est entré. Ça revient à lorsque Jésus dit « Aimez vos ennemis », tout ça. Donc, c'est quand Jésus dit « Aimez vos ennemis », c'est la nouvelle alliance, c'est pas farfelu. Ça va devenir aussi concret que ça ici avec Philémon, qui va effacer la dette d'un esclave, qui va dire « Ok, mon homme, tu m'as coûté 20 000 $. Je te signe ton chèque de liberté. Tiens, tu peux partir. Je viens de perdre 20 000 $. Pour le royaume des cieux. Nouvelle alliance. » Et en faisant ça, lorsque Philémon décide de signer ça, il est en train de se comporter comme un adorateur de Dieu, parce qu'il est en train d'adorer la nouvelle alliance. Est-ce que ça, c'est clair? Vos yeux me disent non. Tu veux-tu m'aider, Alex? OK, mais vos yeux me disaient non. Vas-y. OK, c'est bon. Merci, Alex. Oui. Ça, c'est bien dit. Hein? C'est un bon enseignant. Moi, j'espère qu'il va me dépasser tellement. Vas-y. Exactement. Puis une manière de le poser clairement, tu sais, lorsqu'on avait la question « What would Jesus do? » Bien, à chaque fois que j'arrive devant une situation, puis je dis « OK, si j'étais chrétien, si, puisque je suis chrétien, je devrais agir comme ça. Si j'étais un inconverti, j'agirais comme ça. » Je suis en train de dire « Si je fais partie de la Nouvelle Alliance, je devrais agir comme ça. Si je ne suis pas entré dans la Nouvelle Alliance, c'est comme ça que je vais agir. » À chaque fois, au travail, n'importe quand, vous êtes au volant, puis il y a un zouf qui vous passe, puis qui vous coupe. Bien, il y a les conducteurs de la Nouvelle Alliance, puis il y a ceux qui ne sont pas dans l'Alliance. Comprenez? C'est simple comme ça, là. C'est simple comme ça. On m'offre quelque chose en dessous de la table. Il y a les travailleurs de l'ancienne Alliance, puis il y a les travailleurs qui n'ont pas d'alliance avec Dieu, puis il y a les travailleurs de la Nouvelle Alliance. C'est aussi simple que ça. Oui, Camille. Et le lien, pourquoi est-ce que c'est utile de comprendre, même si on n'y pense pas à chaque seconde, là, pourquoi est-ce que c'est utile de comprendre qu'il y a un lien entre lorsque je décide de me comporter comme un chrétien plutôt que comme un inconverti et l'Alliance? C'est que ma motivation pour décider de me comporter comme un chrétien, c'est pas parce que je vais à l'église baptiste tous les dimanches. C'est pas parce que les voisins savent que je suis chrétien. C'est parce que Christ a offert sa vie en sacrifice pour moi. Lui, il a honoré sa part de l'Alliance. Il m'a promis qu'il ne me renierait pas, que lui va être fidèle lorsque moi je suis infidèle. Il m'a promis qu'il me réservait une place au ciel. Ça, c'est sa part de l'Alliance. Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, les engagements de Dieu, les engagements du peuple de Dieu, les engagements de Christ envers moi, c'est « Yannick, personne ne va t'enlever de ma main. T'es là, je ne te perdrai pas. » Ça, c'est ma part de l'Alliance, Yannick. Je te donne mon esprit pour t'aider à traverser cette épreuve. Ça, c'est ma part de l'Alliance, Yannick. Je suis fidèle. J'honore l'Alliance. Alors, lorsque je décide de me comporter comme un chrétien, puis que je pense à ça, je dis, Seigneur, moi aussi, je vais être fidèle. Je vais t'honorer. Je me suis engagé avec toi. Voyez-vous? Oui. Je veux pas être simpliste, mais je vous dirais que le Notre Père, c'est pas mal fort pour ce que vous vivez. Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, c'est Seigneur, tu es sûr que tu me pardonnes tout? Oui, je vais tout pardonner. Mais si vous regardez le Seigneur et il vous dit pas sûr, ouais, peut-être vous pouvez dire, mais moi non plus, pas sûr. Mais Seigneur, il ne fait jamais ça. Comprenez? Fait que le Notre Père, de retourner à la croix, de contempler Christ, puis Christ qui est là, qui dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est ça que je dis lorsque je regarde un non-croyant qui me fait du mal. Il sait, mais il ne sait pas ce qu'il fait.
Ça vous arrive
à vous aussi? Ah oui, ça m'arrive. Même moi, des fois, je dois leur serrer la main dimanche matin. Absolument. OK, ben je vous en reparle après. On va essayer de le mettre plus pratique que ça. OK. Page 2. Le médiateur du Nouvelle Alliance. Donc, Christ est le médiateur de cette Nouvelle Alliance. Et je lis le Nouveau Testament, je lis la lettre aux Hébreux pour comprendre comment je dois me comporter, moi, dans cette alliance, si j'ai décidé d'entrer dans cette alliance. D'accord? Le sang de Christ met un terme au cycle de souillure et de purification de l'ancien système. Sous la nouvelle alliance, celui qui a été purifié est consacré définitivement au service de Dieu. Vous savez, on est là puis on dit, moi je peux prier Dieu n'importe quand, je peux m'adresser à Jésus n'importe quand, je peux m'approcher. Mais c'est simplement parce que le sacrifice de Christ a été fait. La raison pour laquelle le souverain sacrificateur y allait juste une fois par année dans le lieu très saint et se purifiait à chaque fois, c'était parce que ce n'était pas permanent cette affaire-là. Mais avec ce que Christ a fait, c'est permanent et je deviens un adorateur qui peut entrer constamment dans la présence de Dieu. Venir le louer, le célébrer, prier, intercéder, constamment j'ai accès dans sa présence. Alors au niveau de l'adoration, ça change des choses énormes, là. D'accord? Puisque le sacrifice a été parfait, je suis un adorateur qui a entière présence, complète présence, accès dans la présence de Dieu. Un des thèmes qui est important dans la lettre aux Hébreux, on a déjà commencé à l'aborder ailleurs, mais je dirais que c'est dans la lettre aux Hébreux où c'est le plus manifeste, le plus grand, c'est l'hommage au Fils de Dieu. D'accord? Dans le cours, on a vu ensemble que lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, il y a un nouveau personnage qu'on va adorer. Personnage, là, pas dans le sens fictif, là. Une nouvelle personne qu'on va adorer, qui fait partie de la personne de Dieu, mais c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans l'Ancien Testament, tu t'adressais seulement à l'Éternel. Là, tu arrives dans le Nouveau Testament, puis tout d'un coup, le terme « Seigneur » est utilisé constamment pour Jésus. Et là, on voit un hommage qui est rendu à Jésus, qui était le genre d'hommage qu'on rendait à Dieu dans l'Ancien Testament. Nous retrouvons le terme désignant le prosternement pour affirmer que le rôle des anges est de rendre hommage à Jésus-Christ. Alors, je vous lis le passage, là. Plusieurs d'entre vous êtes familiers avec. Hébreux 1, 5 à 9, la page 3 de vos notes. « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. » Alors, dans la lettre aux Hébreux, on voit cet hommage à rendre à Christ. On le voit de la part des anges, et probablement que l'auteur est en train de nous dire, « Bien, nous aussi, si les anges lui rendent hommage, nous allons lui rendre hommage aussi. » D'accord? Alors, l'adoration dans la lettre aux Hébreux apparaît sous cet angle-là aussi, de ce personnage divin qui est Jésus-Christ, à qui on va rendre hommage, que nous allons adorer. L'auteur nous invite ainsi indirectement à saisir la grandeur de Christ et à lui rendre hommage à son tour ou à notre tour à la mesure de sa grandeur. Dans ce passage-là, ici, c'est avec les anges. Un peu plus loin, ça va être adressé directement à nous. Le lecteur est invité à rendre hommage au Fils, tout spécialement en considérant son œuvre et en portant attention à son message. Alors, je vais vous demander de tourner dans vos Bibles juste pour vous le montrer, là, parce qu'il y a un élément qui est important. Lorsqu'on est dans la lettre aux Hébreux, un des sujets qui est soulevé dans la lettre aux Hébreux, c'est que certains, après avoir reçu l'Évangile, après avoir cru en Jésus-Christ, voulaient aller ailleurs. D'accord? Certains voulaient ajouter, voulaient aller ailleurs, c'était plus suffisant. Et donc, l'argument de la lettre aux Hébreux, c'est de démontrer que ce que Christ a accompli est supérieur à tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Tu ne vas pas retourner à l'Ancien Testament après l'œuvre de Christ. Ce serait ridicule. C'est ça l'argument de la lettre aux Hébreux. D'accord? Oui. Ah, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas relire. Je m'excuse. Quand je dis retourner à l'Ancien Testament, je dis retourner aux pratiques de l'Ancien Testament. C'est ça que je veux dire. Je vais relire l'Ancien Testament constamment pour voir la gloire de Christ éclater. Mais je vais comprendre que je suis après la venue de Christ et toutes choses ont été accomplies en lui. Je n'ai pas besoin de reprendre les pratiques de l'Ancien Testament comme une nécessité. D'accord? Maintenant, dans Hébreux 2.1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Ce n'est pas étranger à l'adoration. Dieu se révèle à travers les prophètes. Dieu se fait connaître lui-même à travers les prophètes. Puis ce qu'on apprend sur Dieu, à travers ça, on adore Dieu. Là, on arrive dans le Nouveau Testament, puis Dieu se fait connaître d'une manière incomparable comme jamais dans l'histoire de l'humanité à travers son Fils. C'est la révélation de Dieu à travers Jésus-Christ. Il va dire même aux anges, adorez-le. D'accord? Si moi j'arrive puis je dis, ouais, il y a Jésus, mais il y a aussi. Jésus c'est bien, mais c'est incomplet. Le sacrifice de Jésus est bien, mais peut-être que je pourrais ajouter mes œuvres. Vous comprenez? C'est lié à l'adoration. Je suis en train d'aller vers quelque chose d'autre que ce que Dieu a révélé, une autre personne que celle que Dieu a révélée. Je suis en train de dire que Dieu n'est pas suffisant, que Christ n'est pas suffisant. Dans la lettre aux Hébreux, l'idée de rester attaché à Christ fait partie de ce que c'est un adorateur. Il reste attaché à Jésus-Christ. Il ne dit pas « Jésus-Christ, c'est bien, mais il faudrait ajouter ça ». Lorsque je commence à faire ça, je cesse d'être un adorateur qui plaît à Dieu. Christ est au centre et je n'irai pas ailleurs. Tout est complet en lui. J'ai le goût de vous dire, lorsque dans une église, on sent le besoin, on prend tout le message de l'Évangile, puis on dit, c'est super génial. Mais quand même, il faudrait ajouter des petits éléments autour. C'est un des sujets de la conférence la semaine dernière. Tu sais, l'Évangile, c'est bien, mais ce n'est pas assez séduisant. On va ajouter d'autres éléments qui ne sont pas bibliques. Par exemple, tout l'Évangile de la prospérité, c'en est un. Tu sais, Jésus a promis que tu deviendrais riche. Jésus n'a jamais promis que tu deviendrais riche. Il ne t'a jamais promis la santé permanente, jamais de la vie. Mais l'Évangile n'est pas assez beau. On va l'embellir. D'accord? Quand tu es en train de faire ça, tu es en train de t'éloigner du centre de l'adoration. L'adoration, c'est reconnaître que Christ a accompli une œuvre parfaite à la croix puis rester pâmé là. Fait que lorsque tu dis, ben, c'est plus assez beau pour que je reste pâmé là, il va falloir que j'ajoute des choses pour rendre tout ça plus attrayant. Chez nous, ce qui va attirer les gens ici, c'est la musique. Mais le jour où vraiment ça va être c'est la musique qui va attirer les gens, il faut qu'on arrête de faire de la musique. Chez nous, ce qui va attirer les gens, là, c'est que le gars en avant, il est tellement drôle là, quand il parle la parole de Dieu. Tu pars de là, tu es craqué pour une semaine. Changez de gars, s'il vous plaît. Arrêtez ça, vous êtes en train de les détourner de l'Évangile. Chez nous, là, il y a un prédicateur, c'est toujours lui, là, il est tellement bon. Mais si c'est juste lui qui peut apporter le bon message, changez de gars. Il faut qu'il soit échangeable, ce gars-là. La seule chose qu'il n'est pas, c'est l'Évangile. Ah, chez nous, il y a des relations, là, on est en communion. Là, puis moi, je vais dans cette église-là à cause de ça. Tu ne vas pas pour la bonne raison. Là. Tu ne vas pas pour la bonne raison. Va dans cette église-là parce que tout le monde est pâmé devant Jésus-Christ puis ce qu'il a accompli. Puis tout le monde est en train de plonger là-dedans puis réaliser à quel point ça nous transforme. D'accord? C'est un peu ça, là, le discours ici dans Hébreux 2.1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Puis là, être emporté loin d'elles, c'était juste retourner à des pratiques de l'Ancien Testament pour dire, ça nous prend ça en plus de ce que Christ a fait. Si on ajoute ça, là, on va être correct. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose ou retrancher quelque chose de l'Évangile, on n'est plus dedans, là. Alors, un des thèmes de l'adoration, c'est de rester là, palmé devant la croix, devant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, devant son œuvre. Ça, c'est un des thèmes majeurs de l'adoration. S'approcher de Dieu, c'est un des thèmes très, très importants dans la lettre aux Hébreux qui nous parle aussi d'adoration parce que le lien qui est fait, c'est avec la montagne sainte. S'approcher de Dieu, s'approcher de la montagne, entrer dans la présence de Dieu, c'est un thème important de l'adoration. Un adorateur veut être près de Dieu, il veut venir près de lui. Et cette expression-là revient à plusieurs reprises dans la lettre aux Hébreux. Hébreux 4, 14 à 16. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. » Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors, cette confiance que j'ai un accès dans la présence de Dieu à cause de ce que Christ a accompli, que je peux constamment me tourner vers lui, constamment aller vers lui, constamment faire appel à lui, venir l'adorer, venir lui exprimer mes besoins, que j'ai cet accès, ça fait partie de notre adoration. Si je veux le mettre dans des termes concrets, lorsque Paul dit « Faites connaître vos besoins. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Je suis dans une des applications pratiques. Ici, ce que Paul me dit, c'est « T'as accès, Yannick. Christ a tout accompli maintenant. Là, approche-toi avec confiance. » Et là, j'ai des soucis. Ça va mal à la job. J'ai plein d'inquiétudes. Puis parce que j'ai plein d'inquiétudes, je suis en train de dire que je ne fais pas confiance à Dieu, donc je ne suis sûrement pas en train de glorifier Dieu. Là. Je ne suis peut-être pas un adorateur qui lui plaît. Je vais me rappeler qu'à cause de Jésus-Christ, j'ai un accès parfait dans la présence de Dieu. Je vais m'approcher de Dieu et je vais dire, « Seigneur, voici tous mes soucis, Seigneur. Voici toutes mes inquiétudes, Seigneur. » Puis dans la prière, l'Esprit, tranquillement, va venir apaiser mon cœur, me donner une confiance qui est au contrôle, me donner une confiance que je suis son Fils, qui m'aime, qui prend soin de moi. Je vais partir le cœur apaisé. Est-ce que je vais partir avec un cœur qui glorifie Dieu comme adorateur? Si mon cœur est apaisé, n'est plus dans l'inquiétude, je suis en train de glorifier Dieu. Mon cœur paisible, qui fait confiance en Dieu à travers l'épreuve, c'est un sacrifice de bonne odeur devant Christ. Alors, un des thèmes importants d'Hébreux, c'est toute cette idée de s'approcher, de cette liberté que nous avons de nous approcher, de venir constamment vers lui. Maintenant, je vais vous lire un paragraphe parce que je trouvais que je ne pouvais pas le résumer mieux que ça. L'adoration, service de Dieu. Un des thèmes importants, comme on l'a vu dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait les prêtres, les sacrificateurs qui servaient Dieu dans le temple. Et tout le peuple de Dieu était appelé à servir Dieu par son style de vie. D'accord? Vous allez voir, on arrive avec des thèmes qui ressemblent à ce qu'on a vu dans Romains 12.1. Quelqu'un qui peut me rappeler Romains 12.1? Qu'est-ce que ça dit? Pardon? Offrez. Comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. D'accord? Vous allez voir que c'est un peu le même thème qui est développé encore une fois dans Hébreux. En deux points clés du raisonnement de l'Épître, je suis au bas de la page 3, le mot, on est dans le grec, le mot latréuine, qui appartient au registre de l'adoration, est employé de façon nouvelle pour mettre en relief ce que signifie être chrétien. Les sacrifices de l'Ancienne Alliance ne pouvaient amener à la perfection. D'accord? Ni traiter le problème fondamental de la culpabilité. En revanche, la parfaite suffisance du sacrifice de Christ en matière de pardon des péchés rend cette purification possible. Le sang de Christ peut purifier notre conscience de la souillure du péché afin que nous puissions nous mettre au service du Dieu vivant. La conscience doit être purifiée par cette assurance. Le sang de Christ procure le pardon. Avant que nous puissions adorer ou servir réellement Dieu. C'est vraiment ça, comme ça que c'est abordé dans Hébreu. Puisque tu as été purifié de toute souillure, puisque tu as une bonne conscience devant Dieu, entre dans le service de Dieu maintenant. Passe à l'action et entre dans le service de Dieu. Mais en quoi consiste précisément le service que le Christ rend possible? La clé d'interprétation de 9.14 se trouve dans un texte un peu plus loin. Voici ce que ça dit. « Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect, car notre Dieu est un feu qui consume. » Et l'idée qu'on trouve ici, là, c'est la dernière phrase. « Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect. » Puis là, l'auteur de la lettre entre dans plein d'applications pratiques. Puisque j'ai cette confiance que j'ai été purifié de toute souillure, ma vie peut plaire à Dieu. Maintenant, par reconnaissance, je vais servir Dieu. Je sais que ce que je fais lui est agréable puisque j'ai été purifié de toute souillure. Je peux offrir le sacrifice. J'ai été purifié. Ce que je viens offrir maintenant va lui plaire. Et là, je vais entrer dans le service de Dieu. L'adoration qui convient à Dieu est ici associée à la réception d'un royaume inébranlable. Grâce à l'œuvre de Christ, les chrétiens ont déjà part par la foi au royaume de Dieu. En effet, ils se sont déjà approchés de la Jérusalem céleste où Dieu est entouré de ses anges et des justes de toutes les générations. Excusez-moi, à première vue, Hébreux 12, 28 semble suggérer que l'adoration n'est qu'une expression de reconnaissance. D'accord? Lorsqu'on pense à l'adoration, on en a parlé au début du cours, on va penser à nos louanges, des remerciements, on va dire les attributs de Dieu. Ça, c'est l'adoration. Il y a encore cette idée-là qui est présente dans Hébreux, mais ça va plus loin que ça. Cependant, le chapitre suivant comporte de nombreuses exhortations à la fidélité et à l'obéissance. Pour l'auteur, l'adoration qui convient à Dieu consiste donc en paroles et en actes qui découlent de ce sentiment de reconnaissance. Telle est certainement la signification d'Hébreux 13, 15 et 16. On va tourner ensemble, juste pour le lire. OK, c'est excellent comme résumé. Là, je ne me rappelais plus de la citation. Vous allez voir les deux ensemble dans deux versets. Hébreux 13, 15 et 16. « Par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » Donc ce matin, lorsqu'on va chanter des louanges tout à l'heure, lorsque je vais prier ou Alexandre va prier ou va lire un texte, puis dans votre cœur, vous allez dire « Amen », on va être en train d'offrir un sacrifice de louange, d'accord? Quand vous allez croiser quelqu'un tout à l'heure, puis vous allez dire « Hey, tu ne devineras pas ce que le Seigneur m'a donné cette semaine, comment est-ce qu'il m'a béni, il m'a aidé dans une épreuve, tout ça. » Je suis en train d'offrir des louanges à Dieu, je suis en train de parler des gloires de Dieu, d'accord? Alors, verset 15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Quand j'annonce l'Évangile, tout à l'heure, à travers la prédication, on va parler de la gloire de Christ. On va être en train de confesser son nom. On va être en train d'élever Christ. Verset 16, « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » On est dans les sacrifices, on est dans l'adoration. D'accord? Alors, je vais offrir des sacrifices de louange, mais je vais offrir des sacrifices en faisant la bienfaisance. Alors, lorsque je vais apprendre qu'il y a un frère qui est dans le besoin, puis que je vais l'aider, lorsque je vais aller servir à bouffe pour tous, lorsque je vais être en train de m'arrêter sur la route parce que quelqu'un, sa voiture est en panne, puis je m'en vais lui donner un coup de main. Hier, moi, ma voiture ne démarrait pas, puis mon épouse a dû la laisser à une place. Puis Danny est venu me reconduire là pour me dépanner, puis il est venu booster, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, ma voiture. Survolté, ouais, c'était pas ça que je cherchais. Merci, survolté. C'est pas ma femme qui a laissé le mien allumé. On dira pas c'est qui le coupable. C'est pas moi. C'est pas mon fils. C'est pas ma fille. Non, ce que je voulais dire, donc, c'est que lorsque Danny a fait ça, verset 16, « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Mais Danny avait sa journée dans le camp, on avait passé la journée ici. Yvon allait être en retard parce qu'il faisait le détour. Il était en train de faire ça. Je suis sûr que lorsqu'il était en train de faire ça, Danny n'a même pas réfléchi au fait de dire, « Oh Seigneur, c'est vraiment parce que tu es mort sur la croix que je vais le faire. » comprenez? Je suis sûr que c'était plus spontané que ça. Mais il était en train d'être un adorateur et Dieu a déposé son regard puis il a dit, wow, ça c'est de l'Évangile dans son cœur. Yes! Ça c'est quelqu'un qui honore l'Alliance. Je sais, c'est bénin, là, c'est tout petit comme exemple, puis ça ne demandait pas un sacrifice, mais voyez-vous que c'est concret. C'est pas juste la louange du dimanche matin. Ce sont des sacrifices. Donc, on a les deux dans les versets 15 et 16. Si Christ nous a ouvert un parfait accès auprès de Dieu, qu'on peut s'approcher, qu'on est purifié de toute souillure et donc qu'on peut entrer dans le service, voici comment nous allons être des adorateurs. On va lui rendre hommage, on va chanter ses louanges, on va lui rendre gloire pour toutes les bénédictions dans nos vies, on va annoncer l'Évangile et nous allons passer à l'action aussi. Dans nos vies, on va faire preuve de bienfaisance, de libéralité. On va renoncer à acheter quelque chose pour pouvoir donner de l'argent pour aider quelqu'un d'autre. Et lorsque je fais ça, Christ regarde ça et il dit, ça c'est l'Évangile dans son cœur. Yes! Et ça revient à Romains 12:1. Comme en Romains 12:1, l'adoration chrétienne est donc le service de ceux qui ont vraiment compris l'Évangile de la grâce de Dieu et ses implications concrètes. Dans l'Épître aux Hébreux, ce qui motive et rend possible ce service est précisément la purification que procure l'œuvre parfaite de Christ et l'espérance qui en découle. Ce signe indiquant que la grâce de Dieu a été réellement reçue et appréciée à sa juste valeur est donc le suivant, la reconnaissance qui s'exprime par le service. Maintenant, si je sers, lorsque je sers et que je le fais à contre-cœur, je ne suis pas en train d'offrir un acte d'adoration. Je ne suis pas en train d'offrir un sacrifice qui plaît à l'Éternel. D'accord? Mais lorsque je le fais de bon cœur, parce que Christ est mort sur la croix pour moi, puis c'est quoi faire ça? C'est juste dire merci à Dieu pour l'Évangile qu'il a fait. Mais c'est bien exprimé dans le paragraphe. Ce n'est pas des œuvres pour être sauvé, c'est un sacrifice de reconnaissance. Oui. 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 C'est Paul qui dit ça? Excellent. Les aspects pratiques du service chrétien en Hébreux 13, 1 à 7, des instructions fort variées encourageant les croyants à persévérer dans l'amour, la patience et la foi. On commence alors à percevoir ce qu'est l'adoration chrétienne dans le contexte de la vie quotidienne. Elle doit se traduire par l'hospitalité à l'égard des chrétiens de passage, par des visites aux prisonniers, par la fidélité dans le mariage, par la confiance en Dieu pour les questions matérielles, par l'imitation de la foi des conducteurs spirituels. L'auteur lance ensuite un signal négatif en exhortant ses lecteurs à ne pas se laisser entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères à leur foi. Mais donc, mon adoration, ça va être tout ce que je fais par obéissance à Dieu. Voyez-vous, on est dans les thèmes de l'Ancien Testament, on est dans les thèmes des lettres de Paul. Mon adoration, c'est quand je passe à l'action. Je deviens un adorateur. Oui, Charity. En fait, c'est dans la lettre aux Hébreux où il dit « Imitez ceux qui vous dirigent, imitez vos conducteurs dans leur service, dans leur consécration. » Ce que ça veut dire en clair, pour le mettre très, très simple, quand vous me voyez placer des chaises le dimanche matin, placer des chaises, c'est ça que ça veut dire, pour le mettre concrètement. Fait que si vous voyez que j'ai de la joie à le faire, vous appelez chez moi, puis vous dites « Ah, Yannick, je te dérange-tu? » Puis, oups, il y a une situation difficile, puis je prends le temps de le faire, mais vous voyez que c'est pas comme... C'est pas fait avec « Ah non, c'est trop, too much, je suis fatigué. » Bien de ça, c'est ça qu'il est en train de dire. Ah, percevez que il le fait à cause de Christ. Ben moi aussi, je vais servir à cause de Christ. C'est ça l'idée. Imitez vos conducteurs spirituels. Oui. Ça parle de la conversion. Mais c'est parce qu'on est dans la lettre aux Hébreux seulement, là. On est juste dans la lettre aux Hébreux et on a été purifiés de nos péchés une fois pour toutes, entièrement, parfaitement. Le sacrifice a été offert une fois pour toutes. Et ça fait qu'on doit entrer dans le service avec liberté. De savoir que je n'ai pas besoin d'aller offrir mes sacrifices ce matin avant d'aller commencer à servir le Seigneur. Tout a été accompli à la croix. Peut-être que j'ai des choses à confesser au Seigneur. D'accord? Ça, c'est une autre affaire. Mais ce n'est pas des sacrifices. D'accord? Tout a été accompli. Les œuvres de bienfaisance et d'entraide deviennent aussi une forme d'adoration. OK, c'est ça, je l'avais mis là, Hébreux 13, 15 et 16. Tout comme dans l'Ancien Testament, le lieu central de l'adoration est le sanctuaire, Toutefois, avec l'œuvre de Jésus-Christ, nous nous tournons à présent vers le sanctuaire céleste où Christ siège à la droite de Dieu. En conclusion, d'accord? Par Jésus-Christ, nous nous approchons de Dieu et entrons à son service. Nous sommes donc appelés à rendre hommage à celui qui nous donne un si bel accès à Dieu et à glorifier Dieu par une vie d'obéissance. Nous retrouvons donc dans la lettre aux Hébreux une belle harmonie avec la théologie de l'adoration présentée dans le reste du Nouveau Testament. En gros, c'est simple. Garde Christ et son œuvre au centre de ta vie. Rends-lui hommage en l'adorant. Rends-lui hommage en annonçant l'Évangile. Reconnais tout ce que ça change dans ta vie. Puis, pense à l'action. Commence à servir au nom de Jésus-Christ. Tu es un adorateur. En gros, c'est ça dans la lettre aux Hébreux. Puis, à date, c'est ça qu'on a vu dans le Nouveau Testament. Oui, Sylvain. Oui.
Toute la capacité. C'est de comprendre que j'ai la capacité. Maintenant, c'est l'attitude que je dois avoir.
Puis je vous dirais, si je me base sur la lettre aux Hébreux, où est-ce que je vais trouver la bonne attitude? C'est en gardant Christ au centre. C'est en gardant les yeux fixés sur Christ, en réalisant tout ce qu'il m'a donné. Il a honoré toute sa part de l'Alliance. Puis moi, mon cœur, spontanément, va dire, ben, à mon tour, je vais honorer ma part de l'Alliance. Je vais servir en son nom, je vais annoncer l'Évangile, je vais louer Christ. D'accord? On va terminer dans un mot de prière la semaine prochaine, l'Apocalypse. Et puis, on termine le cours. Il y a un cours la semaine prochaine, on termine avec l'Apocalypse, puis après ça, on commence les autres cours. Seigneur Jésus, ce que tu accomplis est merveilleux, Seigneur. Nous n'avons pas à terminer, nous commençons à peine à saisir la beauté de ton œuvre. Nous commençons à peine, Seigneur, aussi à vraiment y croire pour vivre une paix en toutes circonstances, Seigneur. Nous avons besoin de grandir dans cette confiance que tu prends soin de nous, que tu nous as aimés jusqu'à donner ta vie et donc que tout ce qui arrive dans nos vies n'est pas hors de ton contrôle. Mais c'est vraiment un bon berger qui s'est donné en sacrifice pour nous. Nous grandissons, Seigneur. Nous avons tellement besoin de grandir en cela. J'aimerais te prier, Seigneur, spécialement pour Mme Paradis qui nous offre cet exemple très concret, très pratique d'un voisin qui a des comportements exécrables. Et où trouver, Seigneur, l'attitude pour être une adoratrice de Dieu dans son rapport avec un voisin difficile, Seigneur. Père, je te prie de l'aider à réaliser tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus, sur la croix pour elle, de rendre cela tellement concret dans son cœur, tellement concret devant ses yeux, que la réponse spontanée soit de bénir celui qui lui fait du mal, Seigneur. De prier pour celui qui lui fait du mal, Seigneur. Je prie, Père, de l'aider à apprécier tout ce que tu nous as offert en Jésus-Christ et de la faire grandir dans cela, Seigneur, afin qu'elle puisse nous partager, vous savez quoi, je l'aime de l'amour de Christ, malgré tout ce qu'il pourrait me faire. Je te prie, Seigneur, de venir l'accomplir parce que tu as promis de nous faire grandir dans nos épreuves et tu permets ces épreuves justement pour nous apprendre à revenir à la croix, Seigneur. À se confier en toi, non en nos propres forces. Seigneur, je te prie de nous aider cette semaine à voir concrètement dans chacun des choix que nous faisons de nous inquiéter ou de te faire confiance, de prier ou de ne pas prier, de prendre un temps avec toi ou non, de venir t'adorer dans la prière ou non, d'ouvrir la bouche pour annoncer l'Évangile ou non. Je te prie, Seigneur, de nous aider à grandir et à comprendre que tu veux des adorateurs en esprit et en vérité qui te glorifient à tout moment de la semaine, Seigneur. Père, dans quelques instants, on va élever des louanges, nous allons célébrer ton nom. Viens nous purifier, nous pardonner de tout péché, Seigneur, tout ce qui aurait pu te déplaire cette semaine. Et aujourd'hui déjà, certainement, Seigneur, nous avons péché d'une manière ou d'une autre. Viens, Seigneur, nous pardonner et recevoir nos louanges ce matin. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Merci. Je vous demande de signer la feuille de présence qui circule, s'il vous plaît. C'est un outil pour nous. Merci.